en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose maintenant d'écouter l'intervention au colloque 1905 de Monsieur Alain Boyer, intitulée « Du refus à l'acceptation, l'Église catholique et la séparation ». Nous écoutons Alain Boyer.
Je voudrais tout de suite préciser que je ne parlerai pas en qualité de sous-préfet de Chalon-sur-Saône, même si nous pourrions faire des liens avec 1905 à travers la figure de Pontus de Thiars, évêque de Chalon-sur-Saône, au temps difficile des guerres de religion, lui-même grand humaniste, lui-même, dans ses lieux prestigieux, un des fondateurs de la Pléiade, et qui fut persécuté et pourchassé par la Ligue, et qui fut un des grands partisans et des politiques, et de Henri IV, et de la conclusion de l'Édit de Nantes. Et vous voyez que sur la longue durée, sous les auspices de mon maître Fernand Braudel, on pourrait faire quelques liens. Je ne parlerai pas non plus, puisque c'était les fonctions que j'occupais lorsque Yves Brulé, que je remercie ici, collaborateur d'André Damien, m'a demandé d'être parmi vous, en qualité de sous-préfet de Reims, même si à Reims on trouvait de grandes figures de l'Église catholique, le cardinal Langeigneux et le cardinal Luçon, qui ont été du côté catholique des opposants à la loi, et de l'autre côté, Léon Bourgeois, grande figure favorable à la séparation, qui fut sous-préfet de Reims, qui était à l'époque, qui fut aussi président du Conseil, qui était député de la Marne et qui devint prix Nobel de la paix. Donc vous voyez qu'on peut aussi faire quelques liens et qui permettent d'avoir un peu de recul. Je n'insisterai pas tellement dans le temps qui nous est imparti sur le refus bien connu de la loi de séparation des Églises et l'État par l'Église catholique. En tant qu'institution, je le rappelle, parce que la loi de séparation fut acceptée majoritairement par les catholiques du suffrage universel, ce qui explique d'ailleurs le succès des républicains radicaux et socialistes aux élections de mai 1906. Je évoquerai quelques essais d'accommodement de modus vivendi, et l'on connaît l'épisode des cardinaux verts, bien étudié par Jean-Marie Mailleur. Ce que je voudrais dire, c'est que la loi de 1905, et ceci a été rappelé dans un ouvrage récent par Jacqueline Lalouette, était bien une loi de liberté, mais en même temps, elle a été vécue dans une période de tension politique extrême. Et ceci explique beaucoup des malentendus de l'époque. L'encyclique Gravissimo Officii du 10 août 1906, après la condamnation de principe posée par Pie X dans Veniternos le 11 février 1906, allait beaucoup compliquer les relations entre l'Église catholique et l'État. Si le gouvernement, et en particulier si on en croit Louis Méjean, s'attendait bien à la condamnation de principe pour une rupture unilatérale du concordat, il semble bien qu'ils aient moins attendu l'interdiction faite aux catholiques français de créer des associations conformes à la loi. Et il y eut pourtant, et un ouvrage récent de l'Université catholique de Lyon le rappelle, il y eut quand même, malgré l'interdiction catholique, des essais, en particulier en Saône-et-Loire, de création d'associations catholiques locales qui devenaient évidemment par la même schismatiques. Le gouvernement, comme vous le savez bien, choisit après la crise des inventaires l'apaisement, en particulier avec la circulaire au préfet du 16 mars 1906, qui permit de sursoir à l'application. Et on connaît la formule de Clémenceau devant le Sénat, la question de savoir si l'on comptera ou si l'on ne comptera pas des chandeliers dans une église ne vaut pas une vie humaine. Le 24 mars, Briand, ministre de l'Instruction publique et des cultes, demandait le rétablissement des pensions aliments et allocations communales cumulées avec des pensions d'État. Comme l'écrivait la brochure de propagande électorale rédigée par Grunebaum-Ballin, le régime de séparation des Églises et de l'État entend établir une démarcation absolue entre le domaine de la religion, celui du surnaturel et du divin, dans lequel l'État n'a pas à s'immiscer, et celui des intérêts humains et terrestres dont il a exclusivement la charge. Tous les cultes sont libres et tous les cultes sont égaux devant la loi. Il n'y a pas de religion officielle et les catholiques n'ont pas plus à payer pour l'entretien des pasteurs et des rabbins que les libres penseurs pour le traitement des curés. L'Église catholique allait vite profiter de la liberté nouvelle qui lui était offerte, d'abord dans les nominations épiscopales, mais aussi dans l'organisation de l'Assemblée des évêques. Mais elle était beaucoup plus prudente à accepter d'être réduite au même plan que les autres cultes. La circulaire d'Aristide Briand du 31 août 1906, rédigée par Louis Méjean, donne déjà une interprétation large de l'objet cultuel des associations de la loi 1905. Le gouvernement ne veut pas l'affrontement. Et l'on connaît tous les accommodements avec la loi du 2 janvier 1907 permettant la poursuite légale de l'exercice du culte catholique en l'absence d'associations cultuelles. Malgré une nouvelle condamnation de la loi par la lettre pontificale, une fois encore, du 6 janvier 1907, accusant les auteurs de la loi de vouloir détruire l'Église et déchristianiser la France, les évêques décident de publier le 30 janvier 1907 une déclaration autorisant à titre d'essai des contrats administratifs avec les pouvoirs publics afin de permettre l'exercice du culte dans les églises. La loi du 28 mars 1907 dispose « Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable ». On voit bien qu'on est déjà en marche vers au moins un apaisement. Le culte catholique déjà pouvait être exercé librement, le clergé devenant dans les églises un occupant sans titre juridique. Cependant, le gouvernement, et en particulier Aristide Briand et son collaborateur Louis Méjean, directeur des cultes, continuaient d'espérer que l'Église catholique s'organise enfin légalement dans une forme d'association irréprochable, permettant sinon un renouveau du gallicanisme, du moins une Église de France suffisamment forte pour faire entendre sa voix à Rome. Rome, de son côté, n'avait pas renoncé à un accord avec la République, régime qu'elle ne rejetait plus depuis le ralliement de Léon XIII au moins. La Première Guerre mondiale, on l'a rappelé, allait permettre ces rapprochements, d'abord à cause du péril extérieur, mais aussi à cause de la fraternité des tranchées. L'absence de relations officielles avec le Saint-Siège avait montré les difficultés que la France éprouvait pour peser sur les tentatives de paix séparée menées par Benoît XV. Le Saint-Siège, de son côté, était bien conscient des périls nouveaux que l'Europe allait affronter avec la montée du nationalisme ou l'installation du communisme athée. De part et d'autre, on était prêt à rouvrir le dossier. C'était la volonté d'Aristide Briand, qui, depuis qu'il avait pris en main la séparation, souhaitait un règlement définitif de ces questions religieuses. Comme le notait le bulletin général spiritain de 1920, pour s'en réjouir, la guerre a purifié l'atmosphère. Et on peut dire que la conjoncture avait largement évolué en France, les radicaux acceptant de s'allier avec, disons, des républicains opportunistes et progressistes, sans renier la laïcité. La Chambre Bleu Horizon manifestant cet esprit nouveau. La première manifestation publique, et ceci vient d'être rappelé brillamment par le secrétaire perpétuel Jean Cluzel, furent les cérémonies de canonisation de Jeanne d'Arc avec une délégation française officielle. Cette démarche, comme il était indiqué, fut suivie de peu après par le rétablissement des relations diplomatiques, relations qui avaient été rompues, on le sait, à la suite de nombreuses querelles, l'affaire des évêques de Dijon et de Laval, mais plus profondément à cause de la note suivant la visite officielle du président Loubet à Rome. La protestation qu'avait faite le Saint-Siège alors avait surpris les autorités françaises et Poincaré, président du Conseil, peut rappeler le 6 juillet 1923 que très peu de temps auparavant, le Saint-Siège avait envoyé son cardinal saluer le roi d'Italie à Bologne, c'est-à-dire dans une ville qui avait autrefois fait partie des États pontificaux, et se demandait pourquoi président français ne pouvait pas aller à Rome. On sait ce qu'il en était de cette note qui fut communiquée par Albert Ier à Jean Jaurès et les suites liées à cette rupture des relations diplomatiques. On sait que la loi de séparation avait été proposée sans dénonciation préalable du concordat, car le gouvernement, après la rupture des relations diplomatiques, avait souhaité agir sans tenir compte du pape. Pie X avait donc écarté du débat, avait donc bonne raison pour voir dans la loi des intentions schismatiques qui n'y étaient pas, du moins, de la part de ses principaux auteurs. Et on voit, et à cette époque, toute une discussion qui apparaît autour de cette évolution pour essayer, dans l'opinion catholique, dans les années 1920, de faire comprendre ce qu'était portée véritable de la loi. Et je m'appuierai sur un numéro spécial de l'Europe nouvelle de 1924 qui s'appuie sur une étude qui est présentée comme celle d'un haut fonctionnaire bien au courant des affaires et qui est sans doute, et nous aurons dans la prochaine communication la preuve, de la plume de Louis Canet. C'est mon collaborateur regretté, Michel Brisacier, qui m'avait orienté sur cette publication. La République ne reconnaît aucun culte, dit l'Europe nouvelle, cela voulait dire qu'il n'y aura plus à l'avenir de culte reconnu ni d'église établie. La religion n'est plus un service de l'État, et c'est au particulier qu'il appartiendra désormais de pourvoir à son organisation. On comprit à Rome qu'il s'agissait d'abolir le culte, de détruire les églises et d'expulser Dieu des consciences françaises. Et c'est bien sur ce malentendu que l'on veut revenir. Et il ne s'agissait pas, évidemment, de détruire ou de déposséder l'Église catholique. Dans l'Europe nouvelle, on insiste sur l'étrange distinction que l'on imagina alors à Rome entre les associations telles que la loi les impose, dit l'encyclique Gravissimo Officii, Quales divini cultus exercendi causa lex constitui iubet, ce que le cardinal Gaspari appelle aujourd'hui les cultuels tout court, et les associations canonico-légales, pour lesquels l'épiscopat français, dans sa majorité, s'était prononcé. Pie X interdisait absolument et irrévocablement les premières. Il interdisait aussi les secondes, mais provisoirement, sous une condition suspensive, à savoir tant qu'il n'y aurait pas de certitude légale que les droits de la hiérarchie s'y trouveraient en sûreté. Pie X souhaitait une négociation directe. Lorsque la question des cultuels catholiques revint en discussion à la Chambre, les 18 et 25 novembre 1920, Aristide Briand et l'abbé Lemire rappelèrent que l'Assemblée des évêques, qui avait pu seulement se constituer après l'abrogation du Concordat de 1801, et dit le texte de la loi du 18 germinal an 10, ensemble les articles organiques, s'était prononcée en faveur d'associations canonico-légales autour du projet de Mgr Fulbert Petit, archevêque de Besançon. Et d'ailleurs, dans l'encyclique, Pie X dit qu'il avait condamné ces associations, non pas sur avis conforme des évêques de France, mais après en avoir conféré avec eux, auditis uticue episcopis galliae, c'est-à-dire, il les a consultés, mais il ne les a pas suivis. La volonté de parvenir à un accord est sensible alors de part et d'autre. Aristide Briand a toujours considéré que sa loi, on peut dire sa loi, était acceptable pour l'Église catholique, et il voulait le prouver. Le Saint-Siège ne voulait plus poursuivre, ça a été dit brillamment, un combat inutile contre la France républicaine. Mais des divergences apparurent au moment de chercher l'accord, ce qui explique la lenteur des négociations. En effet, le gouvernement français ne voulait ni modification de la loi, ni un nouveau concordat. Il souhaitait l'application de la loi telle qu'elle, avec des associations catholiques. Le Vatican souhaitait, au contraire, un véritable accord diplomatique qui aboutisse à une reconnaissance de fait, non pas du Saint-Siège, puisqu'il y a rétablissement des relations diplomatiques, mais une reconnaissance de droit de l'Église catholique, lui assurant un statut spécifique en France. On s'est quand même mis d'abord d'accord sur la méthode. Le Saint-Siège ferait connaître ses statuts, les statuts qui conviennent à l'Église de France, et le gouvernement dirait si ces statuts sont conformes à la loi. La première phase des négociations est liée, a été un petit peu évoquée, au rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. On tâta le terrain de part et d'autre. Le commentaire officieux de la secrétaire d'État sur l'encyclique Maximam en précise a posteriori le contenu. Les négociations pour le rétablissement des relations diplomatiques avec le Saint-Siège offraient l'occasion de toucher aussi la grave question de la situation légale de l'Église de France. C'est alors que M. Doulcet, chargé d'affaires du gouvernement français près le Saint-Siège, demanda à celui-ci s'il était disposé à traiter sur ce point. Le souverain pontife, Benoît XV, après avoir pris l'avis des éminentissimes membres de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, répondit qu'il aborderait volontiers l'importante question, à condition toutefois que fussent obtenues les garanties que Pilis avait demandées. Sur la base de cette réponse, le gouvernement français chargea des personnes compétentes de rédiger un projet de statut pour des associations qui furent dénommées diocésaines. On a un rapport de Georges Noblemaire à la Chambre des députés qui est plus précis, sur lequel je passerai rapidement, mais qui montre bien que la balle devait être désormais dans le camp de l'Église catholique. Le cardinal secrétaire d'État, au cours d'un de ses premiers entretiens avec M. Doulcet, avait, sans donner à ce vœu le caractère d'une condition, exprimé le souhait que plus tard, les établissements des cultes obtinssent en France la personnalité civile. Le représentant du gouvernement français constata dès l'abord que le cardinal secrétaire d'État, non seulement ne lui manifestait aucune surprise de voir la reprise des relations ne comporter aucune modification de la législation française existante, mais déclarait que le point de vue du Vatican, pour faciliter la reprise des relations, était de ne pas revenir sur le passé. M. Doulcet, dûment autorisé, fit remarquer que, objectivement, c'était l'Église de France elle-même qui, jusqu'à présent, n'avait pas usé des avantages offerts par la loi 1905, avantages précisés en ce qui concerne la sauvegarde des droits de la hiérarchie par la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Cette jurisprudence fut communiquée au cardinal secrétaire d'État et par lui à la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, réunion de cardinaux qui est à peu près exactement homologue à ce qui s'appellerait ici la Commission des affaires étrangères. Donc, on voit dès cette époque, dès l'époque du rétablissement des relations diplomatiques, que l'on est d'accord pour arriver à une situation d'association tolérée. Cependant, les affaires vont durer un petit peu de temps pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a eu des divisions à l'intérieur de l'Église de France, il faut bien le reconnaître, et que certains cardinaux français, réunis à Rome pour les fêtes de canonisation de Jeanne d'Arc, dont on a parlé, se trouvèrent unanimes dans la résistance respectueuse. Et il s'agit de cardinaux proches du cardinal Méry Delval et de la Sapinière et du cardinal Benigni, etc. Et puis, donc, on voit l'hésitation, maintenant, de l'Église de France. Cependant, le rétablissement des relations diplomatiques rendait désormais le dialogue possible et avait levé les préalables, c'est-à-dire Rome acceptait qu'il n'y ait pas de modification de la loi. Mais il fallait trouver des solutions pratiques. La clarification devait venir d'abord à l'intérieur de l'Église. Le père Yves de la Brière, dans la revue Études, le 5 septembre 1922, rappelait encore le rôle des paroisses locales et disait que, dans le droit canonique, on pourrait très bien avoir des associations paroissiales. L'épiscopat en jugea autrement. Pour avancer sur ce dossier, Mgr Chapon, comme le rappelle l'abbé Renaud, entreprit de présenter à l'examen du gouvernement français et à l'agrément du Saint-Siège un projet d'association diocésaine. Ce projet fut soumis à Aristide Briand, alors président du Conseil. Ce projet est présenté comme ayant été rédigé par un prêtre de Paris, sans doute l'abbé Renaud. Ce projet fut présenté dès le 9 novembre 1921 à une réunion d'experts au ministère de l'Intérieur, présidée alors par Maurice Colera, sous-secrétaire d'État à l'Intérieur, plus particulièrement chargé des cultes, et bien sûr les experts conclurent que ces statuts étaient conformes à la loi. Mais évidemment, le problème, c'était qu'il fallait aussi que l'Église catholique soit tout à fait d'accord avec ce projet. Et c'est de ce côté-là que des difficultés survinrent. En effet, si Mgr Chapon était pour une solution, certains membres de l'épiscopat, et en particulier le cardinal Andrieux, archevêque de Bordeaux, étaient beaucoup plus réticents et voulaient obtenir plus de garanties. Le projet envoyé à Rome en décembre 1921, les statuts, il y a changement de pape, les statuts ont été soumis pro informatione et voto à l'épiscopat français seulement par Pie XI, donc après le 6 février 1922. Et le cardinal Andrieux prétend que la majorité de l'épiscopat français se prononça contre le projet. L'abbé Renaud, au contraire, dit « la majorité est favorable, mais avec des aménagements ». En fait, il y eut toute une série de modifications, mais qui venaient uniquement du côté de l'Église catholique. La Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires fut saisie du projet. Selon le Journal d'Italia, bien renseigné par Mgr Benigni, trois séances furent consacrées et le cardinal Méry del Val demanda qu'on relise les avis du cardinal Rampolla de l'époque de 1905. Pie XI avait ordonné que tous les cardinaux soient présents à cette séance extraordinaire et selon le Journal d'Italia, 12 cardinaux se seraient prononcés contre, 3 pour, le cardinal Gaspari, rapporteur du projet, s'abstenant. Et c'est donc désormais le pape lui-même, Pie XI, qui décide de prendre les choses en main en déclarant qu'il accepterait les associations diocésaines à deux conditions. Premièrement, que les statuts fussent bien revus pour affirmer toujours plus leur caractère hiérarchique. Deuxièmement, qu'on obtint du gouvernement les garanties de sécurité et de légalité voulues par Pie X. Il apporta quelques retouches. C'est ce texte qui sera remis officiellement par Mgr Serretti à Raymond Poincaré, alors président du Conseil, le 7 mai 1923. Le président du Conseil, disposant de l'avis des jurisconsultes, répondit que ce projet était à nouveau jugé conforme à la législation sur les cultes. Le 15 juin, Poincaré déclara à la Chambre que des associations pourraient donc être acceptées par l'Église catholique. Cependant, encore, certains évêques multipliaient des objections. Et, par exemple, le cardinal Andrieux, dans une note publiée le 9 novembre 1923, prétendait que l'article 4 de la loi 1905 ne concernait que des associations cultuelles qui demanderaient la dévolution des biens antérieurement possédés par un établissement public du culte. Poincaré soumit ses objections de nouveau aux jurisconsultes, et les jurisconsultes maintèrent leur avis en disant que l'article 4 s'appliquait à toutes les associations cultuelles. Le Saint-Siège aurait encore souhaité obtenir plus de garanties avec une discussion parlementaire. Le gouvernement répondit qu'il appartient au Parlement, certes, de faire les lois, mais non de les interpréter, et que l'affirmation des chambres aurait eu une simple valeur morale, mais non une consistance juridique. Donc, il s'agit bien de jurisprudence. Il décida de soumettre au Conseil d'État le texte des statuts présentés aux nonces, et celui-ci se déclara d'avis le 13 décembre 1923, c'est l'avis définitif, que le projet de statut présenté est conforme à la loi, en considérant, entre autres, qu'aucune disposition n'interdit aux associations pour l'exercice du culte de fixer elles-mêmes l'étendue de leur circonscription, donc ça peut être un diocèse, mais ça peut être même toute la France, et que les associations qui seraient régies par les statuts présentés auraient bien pour objet exclusif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique et se conformeraient à la constitution de l'Église catholique. Cet avis fut remis aux nonces, transmis à Rome. Pie XI considéra alors qu'il avait obtenu les garanties nécessaires et signa le 18 janvier 1924 la lettre encyclique Maximam Gravissimam Quae adressée aux cardinaux. Je m'attarderai un tout petit peu sur ce texte, qui est une acceptation, on pourrait dire faute de mieux, contrainte et forcée, de la loi 1905. En effet, Pie XI ne lève pas les condamnations de principe portées jadis par Pie X contre la loi. Il rappelle comment, le 9 décembre 1905, a été promulguée cette loi par laquelle le Concordat, qui était depuis longtemps en vigueur, a été abrogé par l'une des parties seulement à l'encontre des formalités de droit et comment, sans égard, soit pour la hiérarchie de l'Église, soit pour l'autorité du Saint-Siège, on a d'une manière injuste et arbitraire légiféré sur les droits et les biens ecclésiastiques, comme aussi sur le culte divin. Ce que Pie X a condamné, nous le condamnons de même, et toutes les fois que par laïcité, on entend un sentiment ou une intention contraire ou étrangère à Dieu et à la religion, nous réprouvons entièrement cette laïcité et nous déclarons ouvertement qu'elle doit être réprouvée. Mais Pie XI, après avoir remercié, salué la constance de l'Église de France, affirme vouloir la pacification et chercher une solution. À savoir que la constitution de l'Église et les droits imprescriptibles du pontife et des évêques soient bien préservés. C'est pourquoi le pape déclare désormais permises les associations diocésaines, au moins en voie d'essai, sans aller jusqu'à les imposer. Mais il déclare avec insistance « Nous désirons et nous vous supplions en Jésus-Christ, par ce sentiment de piété filiale que vous avez envers nous et ce désir dont vous brûlez d'observer la discipline, l'unité et la concorde, d'essayer les dites associations. » Cette supplication décida les évêques, même les plus réticents, et l'on voit d'ailleurs, petit à petit, le dépôt des statuts d'associations diocésaines. L'Église catholique découvrait désormais qu'elle pouvait vivre avec la loi 1905 et que si elle avait peut-être perdu un peu matériellement, elle y avait beaucoup gagné en liberté, en indépendance et en cohésion. Depuis, les relations entre l'Église catholique et la République sont devenues confiantes, voire cordiales. On a pu parler de séparation bien tempérée, de concorde sans concordat. Certes, la République n'avait cédé sur aucun des principes de la loi de 1905. La loi de 1905 n'avait pas été révisée, ni même modifiée, comme l'avait souhaité initialement le Saint-Siège. Le culte catholique s'organisant en association de droit privé, s'administrant librement et respectant les règles d'organisation du culte catholique. Et les statuts peuvent en être modifiés, comme l'évolution du droit canonique a appelé à le faire tout récemment dans les différents diocèses de France. Cette place particulière, acquise par les relations diplomatiques rétablies avec le Saint-Siège, donne cependant un statut, on pourrait dire, à l'Église catholique. Avec les échanges de lettres et de notes, on a bien des accords de nature diplomatique. Certes, il ne s'agit pas de traités, ces textes ne sont évidemment pas supérieurs à la loi, ils sont simplement fondés sur une interprétation de la loi. Mais il serait sans doute bien difficile de remettre cette interprétation en cause, un renversement de la jurisprudence étant fort improbable en la matière, car il n'aurait justement pas de fondement. Et en plus, il entraînerait bien des difficultés. Car, depuis 1924, l'Église de France soutient, désormais sans faille, la loi de 1905, mais en précisant toujours, relue par les accords Briand-Séréti. Cette évolution du refus à l'acceptation de la loi par l'Église catholique et plus largement de la guerre au dialogue, montre bien toutes les possibilités contenues dans la loi de 1905. Ces possibilités, Aristide Briand les avait voulues et il a été très heureux, très fier, on peut dire, de finalement pouvoir les appliquer, de les faire comprendre et accepter à ceux qui avaient le plus violemment rejeté sa loi. Et il le dit lui-même, ces principes s'appliquent déjà à tous les cultes qui existaient en France en 1905, mais il envisage qu'ils puissent s'appliquer sur les cultes à venir, comme il le montre en particulier sur les cultes dans les territoires d'outre-mer, et en particulier sur l'islam qui fut évoqué par le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré. Nous sommes donc arrivés au terme de ce parcours et de ces affrontements vers une acceptation totalement ouverte, fidèle. Dès 1924, il faut dire que le pape y a mis du sien, parfois même contre ses cardinaux, pour trouver la solution. Et c'est cette solution qui nous permet de vivre en bonne intelligence. Je vous remercie.